Game Radio.
Sur Game Radio, c'est Kalia pour Pachinko, votre émission spéciale jeux vidéo vue du Japon. Cette fois-ci encore, comme vous l'entendez peut-être derrière moi, je ne suis pas seule. Il y a à nouveau notre expert musical, il y a Jarel. Bonjour Jarel.
Expert, c'est un grand mot et en plus, ils n'entendaient absolument rien vu que je ne faisais pas de bruit.
Si, tu as pouffé.
Petite souris là, juste.
Tu as pouffé
petite
à mon
intro. Juste... Ah non, non, j'ai absolument rien. Je suis la petite souris derrière Kalia, donc voilà.
Mais non, voyons, c'est moi la jeune padawan qui m'incline devant ton immense savoir. Donc, comme promis, on est réunis à nouveau pour la deuxième partie de notre émission spéciale compositeur japonais. Donc, dans cette partie, on va vous parler non plus de la façon dont les compositeurs sont perçus, mais des compositeurs eux-mêmes, des hommes, derrière les grandes musiques de nos jeux préférés. Alors, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le délai de parution de cette émission. Vous avez attendu presque 2 semaines après le concert Last Elixir. Faut savoir que pour s'organiser, pour enregistrer, pour trouver un créneau avec 8 heures de décalage horaire, c'est pas facile. Donc voilà. Je suis désolée, mais ne vous inquiétez pas, les semaines suivantes, vous aurez un enchaînement d'enregistrements de terrain de Tokyo. Toutes les surprises que je vous ai ramenées de Tokyo. Donc vous les aurez à temps. Voilà. Donc nous allons parler des compositeurs et nous allons essayer de vous les présenter tous rapidement. Enfin tous, non. Évidemment pas tous. On voudrait qu'une encyclopédie ne suffirait pas à tous les présenter. On a donc fait une liste. Oui, c'est une liste. Voilà. Hélas.
Oui, parce que c'est effectivement quand on a vu le nombre de compositeurs un petit peu emblématiques du Japon, surtout en ce qui concerne les jeux vidéo, on s'était demandé comment le présenter, s'il y avait une façon plus originelle qu'une autre. Non, en fait, on est revenu à cette bête liste, mais bon, l'important finalement, on va pas revenir de façon approfondie sur les compositeurs, juste essayer de les présenter rapidement.
Voilà, les grands après, noms de savoir pour avoir l'air cultivé.
Et après, voilà, et après de conclure avec un petit morceau qu'on juge un petit peu représentatif de leur travail. Donc on va revenir sur les grands noms, donc on va pas vous cacher, ça va pas être une surprise, il y aura du Uematsu, du Koji Kondo.
Mais chut, il fallait faire deviner celui-là.
Oh,
spoiler.
Qui connaît pas. Non, mais ce qui est beaucoup plus intéressant à la rigueur, c'est de faire deviner les autres, parce que là c'est un petit peu plus ardu.
Bon, mais alors justement, on va en décevoir certains, mais malheureusement on pourra pas vous passer des extraits de tout le monde, hein, c'est pas possible, on n'aura pas le temps. Mais on a quand même pas résisté à l'envie de sélectionner quelques petits extraits.
Voilà. Mais on vous invite en tout cas à découvrir leurs œuvres. On a fait une sorte, enfin, on va pas dire un petit listing parce que la liste est longue. Donc on embarque, venez, on vous amène dans notre bateau et puis voilà, dans notre bateau musical, on va flotter sur les vagues des compositeurs japonais.
Voilà, et vous inquiétez pas, des recommandations, vous en aurez. Donc on va commencer par les grands noms. Hein. On va pas être originaux. Maintenant, tu nous as spoilé, mais on va quand même les faire deviner en passant deux
voilà.
Petits extraits.
Quel est l'ordre ?
Voilà, pour les deux plus grandes stars de la composition de vidéoludique japonaise, on commence par ce petit extrait que vous allez sans doute tous reconnaître. Dès les premières notes, évidemment, vous êtes nombreux à avoir reconnu immédiatement, c'est bien sûr le prélude de Final Fantasy, qui a été utilisé dans 11 des 14 jeux sortis quand même, et composé, ouais, évidemment...
C'est par Nobuo Uematsu, voilà. Pardon pour mon accent japonais absolument affreux, mais je l'assume.
Ça voilà, se prononce comme ça, Nobuo Uematsu.
Effectivement, quand on parle déjà de composition, enfin de composition de RPG et japonais, on pense à Nobuo Uematsu qui a vraiment marqué de sa patte blanche tout le RPG japonais.
De toute façon, comme on l'a dit la dernière fois, quand on parle de composition vidéoludique japonaise, c'est principalement du RPG et en fait c'est principalement du Square, du Squaresoft, du Square Enix, comme vous allez vite vous en rendre compte. Et donc Nobuo Uematsu, bon, je vais pas vous faire l'injure de vous présenter beaucoup, mais donc c'est évidemment principalement les musiques des FF. Mais il est surtout rattaché en fait à Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur des FF, mais qui s'est aussi détaché de Square maintenant avec son propre studio Mistwalker. Et donc Uematsu fait les musiques aussi des jeux Mistwalker, donc comme Blue Dragon, Lost Odyssey et maintenant Last Story, qu'on attend avec impatience.
La superbe Lost Odyssey, hein. Ça va vraiment faire un exceptionnel travail sur la musique de Lost Odyssey que je vous conseille à tous.
Je sens que dans cette émission on va entendre beaucoup de génial, exceptionnel, fabuleux, merveilleux et autres superlatifs. Très subjectif.
Ah bah attends, ceux qu'on n'aime pas, on les a pas mis. Hein.
Non, en fait, la liste est extrêmement subjective. Voilà, vous aurez le droit. Je sens qu'on va avoir des commentaires. Vous avez oublié un tel et un tel. Évidemment.
Oui, c'est normal. On a fait exprès pour le débat parce qu'on aime bien le débat. Donc sachez que les compositeurs qui ne sont pas dans notre liste sont tous des très mauvais, des gros nuls. Hop, et voilà, et vas-y. Tac.
Ça pour attirer les commentaires.
Oui, ouais. Voilà, tout de suite.
Pour une fois, c'est moi qui attire les balles. Donc, pour revenir rapidement sur Uematsu, c'est l'un des seuls compositeurs vidéoludiques assez célèbres pour faire salle comble dans des concerts et des tournées mondiales, hein, donc avec les concerts organisés par Square Enix qui s'appellent par exemple More Friends ou en ce moment Distant Worlds. Et c'est aussi un des rares compositeurs qui a son propre groupe. Il avait son propre groupe de rock instrumental qui s'appelait les Black Mage. Ils ont sorti trois excellents albums de remix de FF. Alors, aujourd'hui, ils sont dissous, depuis pas longtemps en fait. Mais Uematsu a recréé un autre groupe qui s'appelle les Earthbound Papa, qui viennent de faire leur début dans le concert Distant World. Alors je ne sais pas encore en quoi ils diffèrent des Black Mage.
Tu sais, toi ? Déjà le nom.
Mais en plus, il a participé à Earthbound, Uematsu.
Oui, il a participé à Earthbound aussi.
Il a participé ?
Mais est-ce que... Oui, attends, il me semble. Hop.
Il me semble pas l'avoir fait dans sa liste de jeux, mais bon, en même temps, elle est tellement longue que j'ai pu le rater.
Oui, et papa, ça veut dire quelque chose en japonais ou,
oui,
ou non.
C'est comme chez nous, c'est le surnom affectif des enfants pour leur père, tout bêtement. Il n'y a pas
D'accord.
de mystère.
Bon, c'est bon alors, j'ai rien dit.
Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? Ah oui, il a aussi surpris récemment en composant pour Super Smash Bros. Brawl.
Autant pour moi, il n'a pas participé à Earthbound.
C'est bien ce que je me disais, ouais, je ne l'ai pas vu. C'est donc assez étonnant comme choix de nom. Mais donc, comme c'est un compositeur plutôt rattaché à Sony en général, et donc il a participé avec beaucoup d'autres compositeurs à Super Smash Bros. Brawl, avec l'OST merveilleuse, hein, si vous ne l'avez pas encore entendu, jetez-vous dessus. Son style est extrêmement hétéroclite, hein, puisque... conforme en fait à la variété des histoires et des environnements présents dans les RPG et surtout dans les Final Fantasy. Donc il peut vraiment, que ce soit de la musique épique, de la musique triste, de la musique romantique, etc., il sait tout faire. Hein.
Non, il sait pas tout faire. Non, dès qu'il s'agit de musique chantée, de chansons, il est très mauvais.
C'est vrai, comme beaucoup de compositeurs.
Voilà, il faut avouer que toutes les chansons qu'il a faites sont quand même franchement pas terribles. Voilà. Ça, c'est effectivement, c'est une question de goût, hein. Mais
c'est pas celui alors. Tu penses à quoi, par exemple?
Au dernier, par exemple, Blue Dragon, notamment.
Ah oui, oulala, oui, dis donc. Oui, alors donc, là, la musique de boss, elle était.
Voilà. Tu l'as oublié. Donc.
J'ai pas oublié. C'est un mauvais souvenir que j'ai un peu refoulé parce que c'est la musique, effectivement, de musique des boss qui était pénible.
Donc voilà. Donc Nobuo Uematsu est très bon, sauf en ce qui concerne les musiques, les chansons, je veux dire. Donc voilà, on va tout de suite enchaîner maintenant.
Par la deuxième grande star. Donc pareil, on va passer un petit morceau, vous allez reconnaître les premières notes.
Monsieur.
Oui, c'est un monsieur. De toute façon, il y a très peu de femmes.
Hein. Ah oui, il y a très peu de femmes. Mais il y en a.
On a trois dans la liste. Vous allez voir. Donc, la deuxième grande star, je vous passe la musique tout de suite.
Voilà.
Alors que ceux qui n'ont pas reconnu se dénoncent immédiatement.
Sortent de la salle, se mettent un sac casino sur la tête. C'était le thème de Zelda, un thème qui a été repris un petit peu partout, qu'on retrouve régulièrement. C'est vraiment
ça fait. Même.
Voilà, donc bon, Koji Kondo, on le connaît pour Zelda et les Mario.
Voilà,
c'est
on aurait
quand
pu
même...
prendre Mario aussi.
Là, si on parle de thèmes qui sont reconnus en dehors du monde du de joueurs de jeux vidéo et autres, c'est bien ces thèmes-là, quoi. C'est voilà. Ces thèmes-là ont su transcender finalement leur support et leur jeu.
Enfin, les trois premiers du premier monde de Mario, tout le monde les connaît. Hein. C'est... tout le monde l'a fait, tout le monde connaît. C'est vraiment dans le métro parisien, on les entend de temps en temps.
Ça arrive, ouais. 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 C'est devenu vraiment des musiques emblématiques du domaine du jeu vidéo, encore plus que toutes les autres. C'est vraiment. Voilà. Des sortes de dignes représentants de ce qu'est la musique de jeux vidéo.
Absolument. Et la particularité de Koji Kondo, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il a finalement assez peu de travail. Il se repose un peu sur ses lauriers, on va dire, puisque les thèmes...
Il méchante.
Non, mais c'est pas péjoratif. Mais ce qui est particulier, c'est que les thèmes, en fait, de ces deux grandes licences, donc Mario et Zelda, ont été établis il y a des lustres. C'est-à-dire que c'est des thèmes qui n'ont quasiment pas changé depuis le tout début de la licence. Et en fait,
mais qui sont régulièrement réutilisés, réarrangés, etc.
Mais en fait, Koji Kondo aujourd'hui ne s'occupe plus que d'assurer la cohérence musicale des nouveaux jeux et des univers. C'est-à-dire qu'en fait, il vérifie, il surveille comment on arrange les thèmes qui sont établis. Donc, ils sont à chaque fois un peu remasterisés selon l'ambiance du nouveau jeu, mais ils n'ont pas changé.
Travail de superviseur.
Voilà, il supervise, mais depuis Nintendo 64, il ne compose plus vraiment de nouvelles œuvres. Il s'occupe seulement de vérifier la cohérence.
Tu te rends compte que quand il a commencé à composer ces deux thèmes, tu n'étais même pas né.
Merci de me le rappeler.
Voilà, donc on va enchaîner avec le prochain.
Plus que moi, donc.
Voilà, tu vois. Ça m'étonnerait pas que tu sortes avec un vieux après. ton attrait envers les vieilles choses.
nous disgraissons.
Allez, ouais. On enchaîne.
Alors, maintenant, nous allons passer donc à des noms connus, mais connus dans le domaine du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si vous ne connaissez pas les noms dont nous allons vous parler, vous n'avez plus à vous flageller, c'est pas grave. C'est, voilà.
Voilà. En tout cas, vous connaîtrez certainement les titres, les jeux pour lesquels ils ont composé. Ça, c'est obligé.
Parce que les noms japonais, c'est pas évident à retenir, on le sait. Vous inquiétez pas, on a nos notes devant nous, hein. On fait pas ça en impro. Et là, j'ai grillé le titre.
Si, un petit peu quand même. Donc, vas-y. Donc.
Oui. Alors, le suivant, justement, il est peu connu en France, même très peu connu, parce que c'est le compositeur d'une immense série qui fut très peu exportée chez nous, à savoir les Dragon Quest. Voilà, on va parler de Koichi Sugiyama. Tu as joué au Dragon Quest, toi ?
Oui, j'ai joué au Dragon Quest. Ouais.
C'est bien, moi, ils sont sur la liste, ils ne sont pas encore faits.
Non, mais je pense que la fiancée céleste, à partir du 4-5, c'est déjà très bien. Ou autant ne pas prendre les premiers, mais vraiment commencer au 4-5, un petit peu comme les Final Fantasy d'un certain côté.
Je proteste, tous les Final Fantasy valent le coup. Même
Le 1, 2, 3, bof quand même.
Même le 2, ouais. Enfin, bref.
À partir du 4, ça commence à devenir intéressant. Bon,
c'est vrai, à partir du 4, il y a une vraie histoire.
Ça ne s'arrête pas. Et le meilleur est le 6. Allez, on passe.
Tu dis ça parce que t'es sûr que je vais pas te contredire, c'est traître.
Non, parce que justement on va enchaîner.
Alors, mais donc la musique de Dragon Quest, c'est des thèmes épiques dans le plus pur style médiéval fantastique, hein, c'est finalement assez classique dans les thèmes, mais ça, c'est quand même du lourd. Toi qui as joué au jeu, qu'est-ce que tu aurais à en dire ? Tu connais mieux que moi.
Ils ont les musiques ont très très bien vieilli. De toute façon, elles s'accordent aussi très bien à une réorchestration symphonique. C'est pour ça qu'on en retrouve aussi régulièrement dans les grands concerts, notamment au Japon, hein, où il y a vraiment des concerts qui sont faits quasiment spécialement pour les Dragon Quest.
Donc, rappelez-vous, de toute façon, le thème principal ou l'un des thèmes est passé en premier en intro du concert que je vous ai enregistré il y a deux semaines.
Voilà. Donc ça fait partie presque du patrimoine culturel, musical, vidéoludique japonais. Ça, on peut pas y échapper. Enfin, les plus jeunes ne pourront se remémorer finalement la très bonne intro de Dragon Quest 8.
Ça peut passer. Rototem, c'est ça.
Voilà, ça donne un petit peu l'ampleur un petit peu symphonique des compositions de Koichi Sugiyama.
Bah justement, ça me fait une super transition parce que j'ai un truc important à dire, c'est que Koichi Sugiyama a inventé les compositions symphoniques pour jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est lui, en fait, qui s'est rendu compte en premier que les moyens techniques à l'époque, Dragon Quest 86, n'étaient pas à la hauteur de ses compositions. Donc c'est lui qui a inventé la reprise des musiques par un vrai orchestre et la sortie d'un CD qui accompagnait le jeu. C'est lui.
Bah,
Quelle belle transition.
Je ne savais pas. Quelle belle transition.
Non, mais j'ai appris ça tout à l'heure. Hein.
Mais il ne faut pas le dire. Tu es en train de donner les ficelles et puis tout de suite, ça fait tomber le mythe et un petit peu la poésie qui entoure cette émission. Donc, allez, on enchaîne donc sur le prochain. On va quitter Sugiyama. Au revoir, Sugi.
Je te laisse présenter le prochain, Eva, je t'en prie.
Tu me laisses présenter le prochain et j'en suis vraiment très content vu qu'il s'agit de Hiroki Kikuta. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hiroki Kikuta, si je vous dis Secret of Mana, ça parle énormément dans
oui.
le cœur.
Des étincelles qui s'allument dans les yeux des joueurs.
Voilà, des étincelles. Alors, Hiroki Kikuta, c'est un artiste, un véritable artiste, un touche-à-tout formidable, entièrement autodidacte.
Mais oui.
Lui, il touche réellement à tout. Hein. Il a débuté sa carrière professionnelle en tant que dessinateur de manga. Hein. Donc,
oui, oui.
Voilà.
Je crois qu'il avait projet de devenir. C'est Mitsuda qui voulait devenir golfeur. Ils viennent vraiment de toutes parts.
Ah oui, non, mais c'est une véritable personnalité que je vous invite à découvrir. Et cette personne-là est rentrée finalement dans ce Squaresoft à l'époque en leur proposant une maquette. Et la maquette a été tellement bonne qu'il a été embauché. Il a été après mis en tant que... Après avoir fait quelques petits menus travaux, notamment sur Final Fantasy IV et Romancing Saga, il a été promu en tant que compositeur attitré de Seiken Densetsu 2. Je ne sais pas si je le dis bien.
Seiken Densetsu 2, c'est ça.
Voilà, et de Secret of Mana. Et Secret of Mana, la musique est une sorte d'orfèvre de la Super Nintendo, encore voilà. Aujourd'hui, qui s'écoute avec bonheur.
Mais le drame, c'est que Positeur est très discret, on ne l'entend jamais, il a très peu
composé. Il est très discret parce qu'il a fait vraiment il a créé sa propre voix, il est allé à chaque fois dans des endroits où on ne l'attendait pas, et le dernier travail, il a fait très peu de travail pour Square Enix, il a fait de travaux, pardon, j'ai le haut qui m'a quitté. Il a fait très peu de travaux pour Square Enix vu qu'il a composé aussi pour Seiken Densetsu 3. Il a fait aussi la fabuleuse OST de Tsukaigi que je vous invite à découvrir. Je suis sûr qu'il y a quasiment 90% qui ignorent ce qu'est Tsukaigi, mais je vous invite.
De toute façon, on a un extrait, non ?
Un petit bijou. Voilà, il y a un extrait qui va arriver.
Nous allons le passer tout de suite.
Voilà, écoutez, vous allez voir.
Ça en jette hein, tout de suite.
Oui, ça en jette et vraiment exceptionnel. Et il quitte finalement Square Enix pour monter sa propre boîte à la fin donc de son travail de Tsukaigi et pour être le compositeur et le producteur de Kudelka donc, dont tu connais forcément la suite
ça va être Shadow Earth
dont on va en parler après.
On va se parler dans Game Radio & Co donc qui est ma série de
voilà, il quittera finalement sa boîte quasiment tout de suite après l'échec de Kudelka.
Oui, parce qu'en fait Kudelka, il faut savoir que donc il a créé, composé la musique, réalisé et tout, et au final le jeu était extrêmement
artistique. Super histoire, enfin vraiment, mais par contre des combats catastrophiques. Ouais. Et donc pour finir avec lui, il a juste une actualité. Maintenant, il va être le compositeur d'un autre jeu qui va sortir sur PSP, estampillé Sega, qui s'appelle Shining Hearts. Donc, voilà, il sort le 16 décembre, prévu sur PSP. Donc, j'attends avec impatience parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu.
On l'entend jamais. Il se cache.
Non, il se cache, mais il est très intéressant. Il a donné énormément d'interviews, donc vous pouvez retrouver en cherchant bien sur le net. Mais voilà. Donc, on va enchaîner quand on parlait de Shadow Earth. Vas-y,
oui,
bah
le
toi.
Suivant, justement, c'est mon chouchou, un de mes chouchous, il y en a beaucoup, c'est Yasunori Mitsuda. Encore un grand nom, je pense que vous connaissez. Si je vous dis Chrono Trigger, là-dessus, ça vous parle. Il faut savoir...
Tic-tac.
Exactement. Il faut savoir qu'il était employé donc, chez Square comme responsable des effets sonores pour plusieurs jeux, et que finalement, il a lancé un ultimatum à Square parce qu'il voulait faire de la vraie composition. Et il a dit, donnez-moi un jeu, sinon je me barre. Et donc, ils lui ont donné Chrono Trigger. En pensant que sans doute qu'il allait jouer, parce que faire la musique d'un jeu comme ça tout seul, c'est un boulot monstre. Il y a plus de 50 pistes sur le scène de Chrono Trigger. Il a travaillé seul dessus, si dur qu'il a dû être hospitalisé plusieurs fois. Hein. Il paraît qu'il tombait dans les pommes et qu'il se réveillait avec des idées pour la musique. Enfin, c'est voilà.
Ah, mais c'est il a un caractère de cochon. Hein. Mais il sait ce qu'il veut et il se donne les moyens de l'avoir. Et l'OST de Chrono Trigger est vraiment.
Et de Chrono Cross.
Et de Chrono Cross, donc avec notamment la superbe introduction qui n'a pas entendu une seule fois l'introduction de Chrono Cross, doit s'y jeter dessus, font partie vraiment des OST les plus réussis aussi. Voilà. Peut-être que dans le top 10 facile.
Ouais. Par la suite, en fait, son style a mûri et stabilisé vers quelque chose de beaucoup plus reconnaissable, très particulier, une sorte d'électro-rock industriel. Alors, je sais, ça parle pas beaucoup comme ça, donc jetez-vous sur les œuvres en elles-mêmes. Mais vous pouvez l'entendre donc dans Xenogears ou dans Xenosaga, et donc dans la grande série de RPG très méconnue, Shadow Hearts, où son travail est très particulier. Ça fait vraiment partie de l'identité de la série. Il utilise beaucoup d'instruments. Électronique et surtout de voix, beaucoup de voix, pas de paroles mais des chœurs, des mélopées. Il faut aussi savoir que ces albums arrangés sont toujours des merveilles, jetez-vous dessus.
Donc voilà, notamment aussi pour l'OST de Xenogears qui est fabuleuse.
Alors, petite présentation rapidement, c'est Astaroth de Shadow Hearts 2. C'est une de ses les plus belles musiques qu'il ait composées en version jeu original et en version arrangée, c'est des merveilles. Astaroth donc. On passe à la suite avec mon compositeur préféré, donc je le pique, je le présente aussi.
Bon, bah vas-y, y a pas de problème, je te laisse.
Là, c'est suivant, mais là, il faut que j'en parle. C'est Motoi Sakuraba, mon compositeur préféré, donc. Très prolifique, très hétéroclite, principalement connu pour la série des Tales of. Donc Tales of Eternia, Tales of Symphonia, etc., tout ça c'est lui. Et parmi ses d'autres grandes réalisations, on a Valkyrie Profile, Baten Kaitos, la série des Star Ocean et les Golden Sun. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Le travail sur Golden Sun est extraordinaire. Autant Golden Sun, l'histoire c'est pas ça. Bon, on va dire la qualité du jeu se débat.
Il est très bien, mais par contre c'est vrai qu'à l'époque c'était un jeu qui se faisait en deux fois vu qu'il fallait quand même avoir Golden Sun 1 et Golden Sun 2 pour avoir la fin de l'histoire.
Oui, c'est toujours un peu pénible.
Et avec un système de code à rentrer à la fin.
Oh, m'en parle pas.
Catastrophique pour récupérer ses personnages et son équipement. Enfin bon, bref. Donc on va quand même se concentrer sur Sakuraba là. Je te laisse.
Donc lui aussi, il a un style en fait très particulier, très reconnaissable, mais ce serait difficile d'expliquer pourquoi il est reconnaissable. J'ai réfléchi, je me suis dit que ce qu'il distinguait, c'était surtout l'énergie et la présence de ses compositions. Parce que généralement, une musique de vidéo, c'est plutôt des musiques d'ambiance, donc c'est capable de s'effacer, ça fait des boucles assez courtes, alors que Sakuraba, il compose des thèmes longs, très complexes et extrêmement présents durant le jeu. Et du coup, ça en fait un très bon compositeur à écouter hors jeu, c'est-à-dire seulement le CD. C'est de la très bonne musique en soi, même sans le jeu vidéo.
Ça, je suis d'accord. Et petite anecdote aussi sur Sakuraba, moi, qui m'avait particulièrement impressionné à l'époque, c'était l'introduction sur Super Nintendo de Tales of Phantasia, qui est une introduction chantée. Allez-y, vous allez voir, c'est très sympathique.
Ouais. Et recommandation particulière, là encore, des albums arrangés qui sont aussi fabuleux. Voilà. Into a World Becoming Impure de Valkyrie Profile, version originale et arrangée, c'est une merveille. Ok.
Et bon, au suivant, donc. Là, je pense que tout le monde connaît. Hein. C'est un des compositeurs de jeux vidéo là aussi les plus prolifiques et les plus reconnaissables. Alors, il n'y a pas de problème.
Voilà.
On peut pas se le mélanger entre
Banjo.
D'autres.
Et,
il fait partie. Figurez-vous qu'il fait partie aussi des compositeurs qui a composé pour un nombre de chansons pour le jeu vidéo. Enfin, c'est peut-être lui qui en a composé le plus. Donc, c'est Akira Yamaoka. Chanson, voilà, avec chant. Donc c'est Akira Yamaoka et sa célèbre série des Silent Hill. Donc il est tellement emblématique de la série qu'il est devenu le producteur aussi. Hein.
C'est un style très différent.
Voilà, c'est un style vraiment très différent, mais l'ambiance est tellement rattachée finalement à son œuvre que voilà, Akira Yamaoka, ça restera du Silent Hill, que ce soit sur le cinéma, ça a été aussi un des rares compositeurs à être repris. Bon, il était producteur aussi, donc de toute façon, s'il voulait faire le film, il fallait passer par lui, mais à être repris pour un film adapté d'un jeu vidéo pour la musique, ben, c'est lui et. Très particulière. On va quand même citer, parce que vu que Silent Hill c'est la série où il y a, qui qui a le plus de chansons chantées à l'intérieur de son répertoire. On va parler de Marie-Elisabeth Maglin, qui est la chanteuse attitrée, la chanteuse femme, et aussi Joe Romersa, qui est le on va dire le binôme de Akira Yamaoka, qui est le chanteur, mais aussi celui qui parolier, celui qui a écrit tous les textes des chansons des Silent Hill.
Qui sont remarquables, voilà, d'ailleurs, les textes, hein, aussi.
À part pour Silent Hill 1. Voilà, voilà, c'est dit. La chanson en espagnol de la fin de Silent Hill 1 n'a pas été... voilà.
Et sur son style, très rapidement, on peut quand même dire qu'il a révolutionné la musique de jeux vidéo d'horreur, parce que c'est plus seulement de la musique d'ambiance. En fait, c'est des bruits d'ambiance, mais qui se mêlent à des instruments carrément atypiques, comme le piano et surtout le banjo. C'est-à-dire que vous entendez du banjo, mais c'est bon, on pensait Silent Hill.
Mais c'est terriblement torturé, il est vraiment très créatif, et on a l'impression à chaque fois dans Silent Hill que ses musiques sont, bon, qu'on connaît, qu'il a fait le tour de ce qu'il a proposé, mais à chaque Silent Hill, il propose vraiment d'autres variations, d'autres thèmes qui sont tout aussi ahurissants et tout aussi agréables à écouter. Malgré le fait que le jeu m'ait énormément déçu, celle qu'il a écrite pour Silent Hill 4, The Room,
oui. C'est ça, c'est The Room, c'est le nom de la musique.
Oui, l'album The Room en entier est vraiment hallucinant, quoi. Et notamment les 4 ou 5 chansons qui sont dessus sont vraiment absolument superbes.
Ouais. Bon, à part, ce serait plutôt le thème de Laura du très grand Silent Hill 2, le meilleur, hein, pour beaucoup de gens. Donc le thème de Laura qu'on entend notamment pendant les crédits de fin, c'est juste merveilleux. Voilà.
Oui. Ouais.
Ok, le suivant, ou plutôt la suivante, enfin, une femme,
une
majorité femme masculine.
Donc, vas-y, hein. Honneur aux femmes, les femmes et les enfants d'abord. On était sur un bateau, j'ai l'impression qu'il est en train de couler, donc vas-y vite.
En train de couler dans les eaux, dans les marais de la digression. Ok, une femme, on va parler de Yoko Shimomura, qui est donc très prolifique elle aussi, qui a travaillé sur des projets très divers, comme Street Fighter, Legend of Mana, Final Fantasy Versus 13, Super Mario RPG ou Parasite Eve. Et sa plus grande œuvre, c'est bien sûr la série des Kingdom Hearts. Hein, elle a fait toute la musique de tous les Kingdom Hearts. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle a sorti récemment un best-of qui s'appelle Dramatica en 2008 et que je vous conseille vivement. C'est vraiment, vraiment des reprises de ses meilleures musiques. C'est vraiment magnifique. C'est très mélancolique d'ailleurs. Et donc son style est très varié.
On reconnaît la sensibilité quand même féminine sur la majorité de ses.
Tu dis ça exprès.
Non, mais c'est pas. Ce n'est pas enfoncer les portes ouvertes ou autre, ou avoir un
préjugé. Non, mais justement, ça n'existe pas.
Non, mais attends, écoute les Kingdom Hearts, tu vas retrouver quand même un timbre qui n'est pas dans ce que tu peux retrouver sur des compositions masculines. Excuse-moi.
Je suis pas d'accord, alors là.
Même son approche, après ça se débat, hein, on va pas débattre là maintenant, mais son approche finalement du survival horror avec ce qu'elle a fait pour Parasite Eve est totalement radicalement différente de ce qu'aurait pu faire.
Mais c'est très particulier, mais c'est pas parce que c'est une femme. Enfin, je veux dire, je trouve ça réducteur de dire, tu vois, elle est particulière parce que c'est une femme. Non, elle est particulière parce que c'est une compositrice de talent. Tu dirais pas ça si c'était un homme. Tu dirais juste que c'est un compositeur original.
Après, je dirais que c'est tout dépend de leur cursus énormément. Mais moi j'en démords pas. Ça se débat en tout cas.
Oui, voilà, on pas le
temps. Ouais, on n'a pas le temps. Mais voilà. Écoute, moi j'ai été subjugué par l'introduction, par la musique d'intro de Parasite Eve.
Oui, j'allais conseiller justement, voilà, donc c'est Primal Eyes.
Voilà, et c'est toute cette séquence d'intro avec l'opéra et autres. Enfin, tout le travail qui a été fait sur le premier Parasite Eve est vraiment somptueux.
Ouais, le problème c'est que la capacité technique n'était pas à la hauteur. Hein. L'opéra, c'est, on dirait, un chien qui aboie.
Ouais, mais mine de rien, quand même, quand tu vois.
C'est la classe.
Après, capacité technique, on peut faire fi, hein. CF Final Fantasy VI.
On peut faire quoi, pardon?
On peut faire fi des capacités techniques en termes d'opéra SF.
J'ai compris, on peut faire fi. J'ai compris, on peut faire fi. J'ai eu comme un doute.
Faire fi, F. Voilà, bon, on va passer à autre chose.
Oui, attention,
parce que je vais être taxé de misogyne ou autre.
Donc, on passe au suivant. Et donc là, heureusement, les capacités techniques n'ont rien limité l'expression artistique. C'est tant mieux pour nous. Le suivant, c'est Ko Otani. Qui compose principalement pour l'animation, mais il est connu pour une seule OST de jeu vidéo, mais quelle OST? Donc, il s'agit de la magnifique OST de Shadow of the Colossus. Donc
Voilà,
ça,
et
bon,
pour un somptueux jeu aussi,
voilà, un jeu
on peut
somptueux et la
dire.
musique en est une grande partie. Pourtant, la musique est finalement assez peu présente dans le jeu, par choix. Mais quand
Mais
elle
c'est tout,
l'est.
oui, c'est entièrement de l'ambiance, et lorsqu'elle l'est, c'est comme le jeu d'un certain côté qui est rythmé par les attaques des titans,
C'est
elle
toi
l'est
qui
à
attaques
ce
ça,
moment-là.
justement.
Oui, c'est toi qui attaques les titans, ils n'ont rien demandé. Et c'est pour renforcer l'aspect dramatique, la majestuosité de l'attaque des titans, et aussi pour le côté un petit peu dramatique de l'histoire qui se passe
Ouais,
autour.
très
C'est
dramatique.
vraiment distillé au compte-gouttes durant tout le jeu.
T'as type de musique en fait, t'as des musiques mélancoliques comme celle du prologue par exemple. Donc, ah, par contre, ils utilisent toujours des chœurs. La quasi-totalité des musiques ont des chœurs masculins. C'est extrêmement imposant, c'est très majestueux. Et donc on a donc ces musiques plus épiques, donc plus liant pour les batailles contre les colosses, et des musiques beaucoup plus mélancoliques et tristes pour tous les passages scénaristiques, même s'il n'y en a pas beaucoup.
Voilà, c'est très, c'est, mais c'est, mais c'est bien distillé, quoi. C'est bien
Voilà.
apporté. La musique est au service de l'histoire et de l'ambiance, et c'est vraiment fabuleux.
Voilà. Alors pour le suivant, je te laisse le présenter.
Si mon accent est bon, c'est Masashi Amaozu. C'est les Final Fantasy. En fait, on va dire que c'est le successeur de Nobuo Uematsu. Hein,
Bah en fait, il est dans l'ombre de Nobuo Uematsu parce qu'il a souvent travaillé avec lui comme assistant et donc récemment, il a fait quelques OST par lui-même, mais il est toujours évidemment comparé au grand.
Il va être calife à la place du calife.
Ah, mais t'es méchant, voilà, tu fais la même chose, t'es méchant, parce que c'est pas Nobuo Uematsu. Mais il est très
Non,
bon,
je voilà, j'apprécie pas plus que ça.
je trouve
Voilà.
ça. Voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est qu'il a le malheur de passer après Uematsu, et ça pardonne pas. Mais il a participé largement à l'OST Final Fantasy X, oui?
Voilà, en plus, il y a le malheur de participer sur des Final Fantasy que j'apprécie pas particulièrement, en tout
Ah,
cas.
le troll revient. Donc la seule OST de Final Fantasy qu'il a fait tout seul, c'est FF13, et personnellement, j'aime beaucoup l'OST d'FF13.
Voilà.
Ça veut dire toi oui, moi non.
Non, il y a certains, il y a certains, non, dans FF13, il y en a certains que j'aime bien, mais voilà quoi.
Alors
Il y a Nier qui est passé après,
Ouais, on en reparle tout à l'heure.
même trop proche.
Et qu'est-ce qu'on peut dire sur son style? Il aime beaucoup, beaucoup les violons et il a des rythmes, des leitmotifs en fait assez reconnaissables. Je pense que c'est parce que son style n'a pas tout à fait mûri encore. Enfin, en tout cas, c'est un compositeur prometteur. Et d'ailleurs, une de ses œuvres intéressantes, c'est Sigma Harmonix. C'est un jeu sur DS de Square Enix qui n'est pas sorti en France. Je l'ai acheté, je vous dirai ce que je ferai un test, je pense. Donc,
Tu crois qu'on aura l'occasion de le voir en
je pense pas,
Europe ou
non.
en
Ça
Londres?
fait un bon temps qu'il est sorti maintenant, je pense que ça ne sortira pas, c'est trop particulier. C'est
Donc
un
on peut
jeu assez
toujours se gratter.
expérimental, dont le gameplay est basé sur le son. Donc ça donne prétexte à de belles expérimentations musicales, justement.
Hop, voilà. Donc on enchaîne tout de suite. On va rester de toute façon dans du Square Enix. Donc avec Hitoshi Sakimoto. Et
Voilà,
si mon accent est bon.
c'est ça.
On va tout de suite mettre justement les bandes son attitrées à côté. Bon, moi, Vanguard Story, je suis là direct à côté. Final Fantasy XII, Breath of
En
Fire
entier.
et Final Fantasy Tactics.
Voilà, il a surtout fait des tactical RPG, donc c'est un peu particulier parce que c'est pas
Oui,
des musiques différentes.
les Tactics Ogre aussi. Oui, non, c'est les
Voilà,
musiques,
les Hog Tactics Ogre, ouais.
celle de Final Fantasy Tactics qui est le seul, qui à la rigueur, si vous devez découvrir qu'un seul Final Fantasy Tactics, il vaut mieux prendre
C'est le
celui
premier,
sur
oui.
PS. Voilà, le premier,
Sans
oui,
aucun doute,
largement.
hein, Advent,
Non,
il est pas à la
voilà.
cheville, c'est clair.
Ben, c'est pas la hauteur, vraiment pas la
Non,
hauteur. Voilà.
c'est trop facile et
Et,
l'histoire n'a aucun intérêt.
non, non, voilà. Et après, mon Vagrant Story, le travail qu'il a fait avec Vagrant Story, qui pour moi, Vagrant Story est un des meilleurs jeux jamais sortis en dehors des frontières du Japon. Son travail après sur FF12, il est resté trop près finalement de son travail de Vagrant Story, tellement près que toute l'intro de Final Fantasy XII, toutes les musiques qui accompagnent et tout l'environnement sonore qui accompagne l'intro de Final Fantasy XII sont quasiment issues de Vagrant Story.
Ok.
Voilà, certaines personnes ont vu ça comme un clin d'œil. Moi, je vois vraiment ça comme un clin d'œil. C'est
Comme un
vraiment un
gros clin
gros
d'œil.
clin d'œil. Final Fantasy XII, ça aurait presque pu et dû devenir Vagrant Story 2. Mais bon, voilà.
C'est marrant parce que ce jeu, tout le monde veut que ce soit quelque chose d'autre. Hein. J'ai un excellent ami qui maintient que FF12 aurait dû être le troisième chrono. Chrono Trigger, Chrono Cross et Chrono. comment il s'appelait, celui qui a été abandonné. Je sais plus, enfin, bref.
Ouais, parce que vu que derrière Final Fantasy XII, tu avais quand même les deux noms, dont, notamment Hitoshi Sakimoto derrière sa conception, jusqu'à ce qu'il soit viré, enfin, avec l'avancement chaotique qu'il a eu. Enfin bon, encore digression. Donc voilà, c'est Hitoshi Sakimoto. Quand même, bon, je retiendrai la superbe intro de Vagrant Story, certains d'autres thèmes de Vagrant Story qui sont très très bien. L'introduction de Final Fantasy Tactics aussi, qui est vraiment très belle. Et toutes les musiques de Final Fantasy Tactics sont très réussis. Ouais. Donc si vous voulez le découvrir, essayez de commencer par là, vous allez voir, c'est très agréable, très sympathique. Donc je te laisse maintenant prochain.
On va parler de son binôme, c'est Masaharu Iwata, qui a participé à de nombreux projets importants, et justement principalement avec Sakimoto, dont il est l'ami et le collaborateur régulier. Donc il a participé par exemple à Vagrant Story, etc. Donc il collabore sur quasiment tous les projets. Mais il a mérité une place à part sur cette liste grâce à l'OST de Baroque, dont je vous ai parlé récemment dans un Game Radio Encore.
Ça, c'est un coup de cœur personnel, ça.
Oui, mais ça vaut le coup. C'est une OST qui vaut vraiment le coup. Mais vraiment, l'OST de Baroque, le premier donc sur Dreamcast et PS1, c'est une musique, alors c'est une des rares musiques qui suffit à elle toute seule à vous donner des cauchemars. Fermez les yeux, vous écoutez cette musique, vous aurez des cauchemars.
C'est là-dessus que tu as failli te fracasser la tête à côté de ton lit.
Oui, aussi. C'est à cause d'un monstre. Mais la musique, franchement, vous l'écoutez avant de dormir, vous passez pas une bonne nuit. Hein. Donc c'est pire que le Silent Hill, j'ai envie de dire, la musique. C'est, bon, alors, c'est différent.
Pour ceux qui connaissent pas Baroque, il a travaillé sur quoi d'autre, le monsieur?
Je te dis, il a travaillé sur quasiment tous les projets de Sakimoto avec lui. Donc comme Vagrant Story, Tactics Ogre, je crois qu'il a fait aussi. Il me semble, il a participé à Final Fantasy Tactics aussi.
C'est pas, en tout cas, c'est sûr que c'est pas le seul binôme qu'on rencontre dans le domaine du jeu
vidéo. Non, mais de toute façon, ils collaborent tous.
Que ce soit au Japon ou en Occident, il y a pas mal de binômes aussi qui fonctionnent à peu près pareil. Ça permet de renouveler aussi totalement ce qu'ils ont à proposer, leur univers, ce qui est
absolument
très intéressant.
Et donc voilà, rapidement, on passe à la suite. Si vous voulez découvrir un travail personnel de Masaharu Iwata, recommandation particulière de Hold Baroque Inside, c'est le thème principal du Baroque original. L'OST du remake, d'ailleurs, rapidement sur PS2 et Wii, est composé par Shigeku Hayashi, qui n'est pas dans la liste, donc on va en parler ici, qui vaut le coup aussi, mais l'original a préférence. Donc, Hold Baroque Inside.
Faut toujours préférer l'original.
Ouais. Ensuite, on continue. On change radicalement de style avec le suivant.
And now something completely different.
Voilà. Parce que le suivant, il s'agit de Shoji Meguro. Qui a travaillé sa série phare, c'est Shin Megami Tensei.
J'aime bien la façon que tu as de rouler les R.
Bah, c'est comme ça qu'on les fait. Hein.
Ah oui, non, mais j'aime bien. donc vas-y.
Shin Megami Tensei et les spin-offs plus connus, les Persona. Et donc là, c'est un style absolument unique, puisque ce monsieur, il mélange allègrement le jazz, le hip-hop, la J-pop même. Et oui, et c'est quand même bien. Oh, le troll encore.
Ah, j'ai rien dit. Oh,
non, mais je me corrige tout seul. Et il emploie donc énormément de voix et surtout de paroles dans ses musiques, ce qui n'est pas coutume dans un jeu vidéo, et c'est réussi. C'est ça qui est intéressant.
Voilà, au passage, là, est-ce qu'il a travaillé sur les Disgaea aussi?
Je ne crois pas.
D'accord.
Je ne colle, mais je crois pas, non. C'est vraiment les Shin Megami Tensei, lui.
De toute façon, les Persona, les Shin Megami Tensei sont déjà des jeux à part. Et qu'il faut tout prix avoir essayé au moins une fois pour se rendre compte que comment ils sont à part.
Voilà. Et avec une musique donc complètement à part, donc le style ne plaira pas à tout le monde, mais comme on vous l'a dit dans la dernière partie de cette émission, il est dans les meilleures ventes d'OST au Japon.
Dans la première partie de cette émission, t'as dit dernière, c'est bon, c'est pas grave.
Hop, oui, voilà, c'est la dernière qu'on ait faite, quoi. Enfin, voilà. tu m'as compris.
Voilà, donc à découvrir. Donc on va passer à Yutaka, peut-être, non?
Oui.
Yutaka Minobe. Voilà,
alors là, pour le coup, on arrive dans les illustres inconnus. Hein. Donc Yutaka Minobe a signé les OST de nombreux Sonic assez récents, mais donc comme c'est des Sonic 3D, c'est pas les grands Sonic originaux. Mais bon, ils ont quand même des OST assez somptueuses. Hein,
et puis des séquences d'intro chantées aussi qui retiennent notre attention.
Oui, voilà. Donc Sonic Adventure, Sonic Heroes, Sonic the Black Knight aussi, je crois. Donc qui ont des très bonnes OST, hein, même si les jeux après sont parfois débattables. Et il a participé donc à plusieurs jeux à droite à gauche aussi, comme Skies of Arcadia, Onimusha ou Panzer Dragoon. C'est pas rien. Mais ce qu'il a retenu sur cette liste, c'est son fabuleux travail sur l'OST de Rule of Rose. Qui a entendu parler de Rule of Rose?
Si, ben
Grand
moi.
silence.
Mais vas-y, vas-y, présente le jeu rapide.
Alors, rapidement, c'est un jeu d'horreur dans la droite lignée des Silent Hill. Et d'ailleurs, Amaoka a travaillé aussi sur l'OST, donc il travaillait en collaboration avec Minobe. C'est un jeu qui a fait un petit scandale, c'est pour ça qu'il est assez connu en fait, parce qu'il a failli être interdit en Europe à cause d'un groupe d'extrême droite qui a fait une polémique dessus. Enfin bref, vous renseignerez, c'est assez drôle. Hein. Et finalement, ça a fait vendre le jeu qui serait sans doute ramassé sans ça, il est trop particulier pour se vendre.
Oui, en plus, il sort toujours 3 ou 4 ans après sa sortie au Japon, donc ce qui le rend totalement obsolète du point de vue technique.
Pas forcément, les graphiques sont pas magnifiques, mais ça il l'était pas de toute façon. Par contre, les séquences d'intro en CGI, c'est absolument incroyable. Bref. Et donc l'inspiration de Amaoka est très présente, mais les compositions sont quand même très personnelles. Ça se base principalement sur un piano très mélancolique, dont je ne résiste pas à vous faire passer un petit extrait. On écoute ça tout de suite.
It's my shame when I call your name. So please don't set me free. I'm as heavy as can be. I will do you harm. I will break my arm. I'm a victim of your charm.
Et comme vous l'avez entendu, là, on avait aussi une chanson, donc c'était le thème principal de Rule of Rose, et c'est encore un compositeur qui réussit à composer pour des chanteurs, et ça marche plutôt bien. Mais donc
Bon,
toute l'OST, c'est du piano.
on va entamer quand même avec quelqu'un d'un petit peu plus imposant, donc avec Masami Ueda. Donc, bon, peut-être que vous ne le connaissez pas. Enfin, il a participé à énormément de séries, hein, des Resident Evil, Devil May
Mais
Cry,
bizarrement, il est assez peu
Bayonetta.
connu, en fait.
Et non, et pourtant, les jeux sur lesquels il a travaillé sont quand même, enfin, c'est des grosses, grosses pointures que tout le monde connaît,
Mais voilà,
hein.
on répète Resident Evil, Devil May Cry, Bayonetta, Beautiful Joe et dernièrement Okami.
De
Pas rien.
Konami Okami avec sa bande son monstre là, 5 DVD. Tu vas me dire, Bayonetta c'est pareil, hein. Donc
La deux
c'est
bandes là,
vraiment,
fabuleuses aussi. Hein.
ah oui, mais c'est vraiment, alors quand on parle de composition très hétéroclite, effectivement là on a un très bon exemple, parce qu'entre Okami, Bayonetta et
C'est
Resident
vrai.
Evil, on va dire qu'il y a quelque chose en commun. Et donc il arrive à s'accaparer finalement les différents univers pour lesquels il a travaillé, et à sortir de à vraiment à faire à ce que sa musique soit en totale cohérence avec le jeu, et presque ne former plus qu'une seule et même entité, quoi. Véritablement, il arrive finalement à faire, au lieu de bouffer le jeu, la série, avec sa personnalité et sa musique, comme l'a fait
Amaoka.
Yamaoka avec les Silent Hill, etc. Lui, à chaque fois, il change radicalement, il prend un contre-pied, il aime bien surprendre, et s'attaque vraiment à tous les styles. Voilà.
Surtout qu'il est fort parce qu'il travaille quasiment toujours en collaboration et pourtant ça réussit toujours à, voilà, à être pertinent.
Entièrement, totalement, à chaque fois. Vraiment, vraiment superbe. Donc voilà, Masami Ueda, petit coup de cœur en ce qui me concerne. Et jetez-vous, si vous n'avez pas encore fait, sur la BO de, sur l'OST de Okami,
Absolument.
et celle de Bayonetta. Moi, j'adore le jeu kitsch, ce jeu kitsch. Donc voilà. Je te laisse présenter le prochain.
La
Une
prochaine,
dernière.
c'est encore une femme.
Oh là là, mince, tu te prends toutes les femmes.
Alors, une autre femme qui méritait amplement cette place sur cette liste, grâce à son travail très original, vraiment très original, pour une série de RPG très originale aussi, peu connue, il s'agit de Wild Arms. L'univers de la série est très particulier, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Wild Arms se déroule dans le Far West. Donc évidemment, c'est prétexte à des compositions dignes des meilleurs westerns.
C'est une sorte de Far West steampunk, donc mêlant
Oui.
robots, monstres, et ambiance, ouais, western, avec chapeau de cow-boy,
Voilà.
poussière, voilà. Et notamment, enfin, qui n'a jamais écouté l'introduction de Wild Arms? Cette introduction, mais vraiment superbe, qui accompagne une sorte de non, mais pas une sorte, un petit dessin animé, avec
Intro animé, ouais.
une guitare et un
C'est ça,
sifflement,
c'est deux
issu du
instruments.
Ennio Morricone. Voilà, c'est tout, c'est
Ces
vraiment
deux
somptueux.
instruments, deux instruments phares, effectivement. C'est donc la guitare, le banjo aussi, donc les instruments à cordes, et surtout l'utilisation de sifflements humains qui donnent un style très très particulier. Donc, c'est des musiques que vous siffloterez, qui vous seront à la tête. C'est extrêmement prégnant et je ne résiste pas là encore à vous passer un petit extrait. Il s'agit du thème de la carte de Wild Arms 3.
Voilà, et moi je reviendrai aussi, bon, vu que je n'ai fait que Well Dancer, malheureusement, vous conseiller aussi le thème de l'enterrement et celui aussi de la forteresse noire, je crois, enfin, là, avec des chœurs assez somptueux, assez mélancoliques, vraiment, vraiment très 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 bon. Chaîne, vu que...
Non, je te laisse le suivant, ça va te faire plaisir.
Ah, 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 pourquoi? Parce que j'aime bien frapper.
non, c'est pas pour ça, mais regarde ce que tu as fait.
C'est Keiichi Okabe, c'est ça?
C'est ça.
Et donc, c'est la... c'est... un, c'est bon, c'est le compositeur attitré des jeux de combat Tekken.
Hein,
Oui, surtout que moi, une de mes musiques préférées reste la musique de fin de Tekken 2, et celle de la musique de fin de 3 aussi, en musique électro, est pas mal du tout. Mais c'est surtout, surtout pour son travail sur la magnifique, la fabuleuse OST de Nier, qui voilà. Pour moi, ça reste mes gros coups de cœur, mes gros coups de mandale dans la tête, ça reste cette OST qui est vraiment somptueuse et qui arrive à se placer très largement dans mon top 10 en ce qui me concerne. Notamment le jeu qui a l'air de rien comme ça, qui est très agréable, très plaisant, mais qui est magnifié par
l'OST. On va dire que le jeu, le gameplay, c'est pas trop ça, les graphismes, non, mais c'est pas trop ça, le personnage, c'est pas ça du tout.
Non, mais l'histoire est vraiment, vraiment originale et l'univers qu'il propose est vraiment très sympa. Et moi, c'est tout ce que j'attends dans un jeu, c'est vraiment très sympa.
En tout cas, c'est une OST très particulière parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'il a fait pour Tekken. Ça utilise des chœurs féminins pour la qualité des pistes et des chants dans une langue inventée et c'est vraiment très sympa.
Très, très hétéroclite et donc l'OST de Nier est vraiment. Enfin, quand on parle d'OST au service du jeu, elle est vraiment au service du jeu et arrive à s'écouter en dehors du jeu lui-même. Ce qui est généralement pas évident. Mais l'intégralité de cette OST est écoutable en dehors du jeu. Et, voilà. Donc, là aussi, peut-être un petit extrait quand même pour me faire plaisir.
Je te le ferai après.
C'est pas prévu.
Mais si, ça y est, de le préparer. Hein, tu l'as pas fait. Je le ferai, c'est pas grave.
Ah, tout de suite.
Allez, on y va. Un petit extrait qui sera donc rajouté au montage.
Ting-tang-tang.
Voilà, et du coup, tu ne sais pas maintenant ce que je choisirais.
Non, je ne sais pas. Mais je te fais confiance.
Ah bon, merci. Alors, je te laisse le suivant aussi, parce que je ne connais pas très bien.
Bah alors, je vais parler de Tomohito Nishiura. Tomohito Nishiura, peut-être que pas beaucoup de personnes le connaissent, mais pourtant, beaucoup de joueurs, de joueuses et même de mamans, bonjour maman, connaissent ses compositions, vu que c'est le compositeur attitré de la série des Professeurs Layton qui cartonne un petit peu partout dans le monde. Et ce carton n'est pas la musique de Tomohito Nishiura n'est pas étrangère à ce carton, je veux dire, intergalactique. De la série sur DS. Alors c'est un compositeur donc japonais qui s'est développé une sensibilité rock folk et qui n'a pas caché son admiration à Eric Clapton. Donc il est très guitare à la base en formation. Il est vraiment joueur de guitare, mais il a réussi à s'accaparer d'autres instruments pour former l'ambiance toute particulière donc du Professeur Layton avec notamment de l'accordéon pour essayer de se fondre finalement dans cette ambiance très occidentale, très européenne du titre. Donc voilà, c'est vraiment très sympa et son parcours lui aussi a été un peu a commencé chez River Hill Software qui ont développé la série d'Overblood 1 et 2 sur PS1 pour ceux qui connaissent, mais ça m'étonnerait. Et après donc Nishiura a fait ses premiers pas dans la composition pour la série Dark Cloud qui a été un des jeux les plus mis en avant à la sortie de la PlayStation 2 vu qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre en avant à l'époque.
Ça a changé après heureusement.
Voilà, ça a changé, heureusement que ça a changé après, et de fort belle manière, et il a vraiment explosé pour tout ce qui a été sur Dark Chronicles, donc la suite de Dark Cloud 2, enfin de la suite de Dark Cloud, Il a aussi fait un gros boulot sur True Fantasy Star Online, un nouveau RPG qui devait sortir à l'époque sur Xbox mais qui n'a jamais vu le jour. Et
Ah, c'est bête ça.
on le retrouva aussi derrière toute l'équipe qui a composé Dragon Quest VIII. Voilà. Donc avec Sugiyama,
Donc un grand homme
Koichi.
de l'ombre, un grand homme de l'ombre en fait.
Un grand homme de l'ombre qui est parvenu à la lumière suite au succès
Ou
des
Layton.
Professeurs Layton. Rogue Galaxy aussi qui est de lui. Allez-y. Bon, de toute façon, vous devez tous connaître la série des Professeurs Layton et notamment le thème principal de Professeurs Layton. Et là, je claque des doigts.
Parce qu'on a un
Kalia,
extrait.
musique!
Après ça, on parlait d'homme de l'ombre, et ben là on va vraiment plonger dans les ombres de l'inconnu total.
Dans les turpitudes du
Des coups de cœur
fanfare.
inconnus de Kalia, voilà. Et on finit par
Oh,
deux illustres.
ça tombe bien, hein, vu le nom du jeu et le nom du thème que tu as choisi.
C'est vrai, tiens, je n'avais pas fait le rapprochement. Et donc on va finir par
Donc, vas-y.
deux illustres inconnus dont je voulais quand même citer les
Spécial
noms.
coup de cœur, Kaya.
Il y a une bonne raison, je maintiens, parce que je voudrais citer ces noms pour souligner un drame finalement assez récurrent dans l'industrie cruelle et sans pitié du jeu vidéo. C'est les talents qui disparaissent lorsque les jeux ne sont pas des succès commerciaux. Donc je voudrais adresser un hommage presque posthume à Masanori Eiichi et Miyoko Kobayashi, qui est la troisième femme de cette petite liste. Et donc, qui sont les compositeurs de ce que je considère encore aujourd'hui comme la plus belle OST de jeu vidéo, ma préférée, celle de Terranigma, si vous l'avez un peu suivi les dernières émissions, je le place le nom à chaque fois que je peux. Donc Terranigma, donc vous avez entendu les sonorités 16 bits dans le On Ludique numéro 1 par exemple. Et donc Terranigma, Tenchi Sozo en version originale, c'est un jeu merveilleux à l'histoire très malheureuse puisqu'il s'est planté et il a entraîné sa boîte avec lui alors qu'il avait vraiment les épaules pour faire un très gros carton. Et donc le studio qu'il a développé, le studio Quintet, a coulé à cause de l'échec du jeu. Et les deux compositeurs de ce studio, donc extrêmement talentueux, n'ont plus jamais refait surface par la suite. Donc c'est vraiment, vraiment un drame. Enfin, c'est vraiment une perte pour l'humanité, j'ai envie de dire. Parce que c'est. Non, mais j'exagère à peine, parce que ces musiques, c'est. Vous allez pouvoir vous rendre compte tout de suite, parce qu'on va passer à un petit extrait donc du Underworld thème. C'est pour ça que j'arrête à rigoler. Donc du thème du monde des profondeurs. Donc de Terranigma en version un peu remasterisée pour vous épargner les sonorités 16 bits.
On vous invite quand même tous les deux à jouer à Terranigma si vous ne l'avez pas découvert, soit avec l'émulation, et c'est vraiment un jeu qui vaut le détour. Et si vous aimez l'action RPG, c'est un des titres majeurs sur Super Nintendo qui en compte pourtant déjà bon nombre. Donc
Voilà.
Terranigma, voilà, mettez-vous-le derrière l'oreille, découvrez et d'abord la musique, peut-être, et après le jeu, vous le
Bah, le
regretterez
must,
pas.
c'est découvrir la musique avec le jeu.
Oui, ça c'est sûr,
Mais
comme
voilà.
comme chaque fois.
Mais de toute façon, voilà, c'est un chef-d'œuvre de poésie et qui se prend pas au sérieux, mais qui a des thèmes d'une profondeur et d'une mélancolie et d'une tristesse derrière. Vous allez pleurer, hein. C'est pourtant, il y a rien de si dramatique que ça, mais c'est l'ambiance du jeu qui est plombante. Bref, voilà, après ce petit hommage, je
Donc,
te laisse finir, on
oui,
arrive
voilà.
déjà à la
Alors,
fin.
Voilà, moi je vous en avais parlé donc lors de cette première partie de l'émission donc de Pachinko consacrée aux compositeurs de musique de jeu, enfin aux compositeurs japonais de musique de jeu. Je vous avais parlé justement du petit essai qu'avait fait Zoe Hisaishi. Alors Zoe Hisaishi, donc pour remémorer
là,
un petit peu, c'est le compositeur des studios Ghibli. Voilà. Tous les films de Miyazaki, c'est lui. Et ce monsieur donc a fait une petite incursion dans le domaine du jeu vidéo. Waouh ! Et là, je vois vos yeux s'ouvrir en grand avec des petites étoiles. Et en fait, voilà. Donc, il s'agit de Tengai Makyu 2,
qui était sorti. Personne ne connaît.
Non, voilà, qui de toute façon qui n'est jamais sorti en dehors du Japon, ouais, comme. 90% des très bons jeux japonais. Dans ça, j'en rajoute un petit peu. Donc là, je vais vous passer juste le morceau final pour un, pour clore cette émission, et deux, pour vous laisser de condenser de Zoe Hisaishi dans cette version finale dans cette chanson finale de Tengai Makyo. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Oui, c'est un ending, et vous allez vous essayer de repérer tous les morceaux, toutes les petits clins d'œil qui ont des films des studios Ghibli qui parsèment un petit peu tout ce morceau de long de 4 minutes 30. Et vous allez voir, c'est très référentiel et c'est adorable. Voilà.
Donc on va vous laisser avec ça. Donc on vous dit au revoir ici.
Voilà, écoutez, merci. Si jamais vous avez réussi à nous suivre jusque là, on vous en remercie grandement. Et on vous dit à une prochaine. Ce sera avec plaisir. Peut-être qu'on reviendra sur un compositeur en particulier
ou
une musique de jeu. Voilà, une musique de jeu en particulier, japonaise ou pas. Hein, voilà. C'est pas que le Japon dans la vie. Oui, c'est vrai. Pardon. Alors, on nommera l'émission de façon différente.
J'aime mon émission. Je ne toucherai pas à mon émission. Bref, voilà. Ah,
d'accord. Bon, en tout cas, on pourra revenir sur des noms de compositeurs japonais, voire revenir sur de l'actualité, vu que l'actualité en cette fin d'année est quand même assez fournie.
Voilà, on vous laisse comme voilà. Ça.
Ben, grosse bise, et puis bon Zoe Hisaishi, bon Tengai Makyo 2,
bon,
et à bientôt.
Oui, à bientôt, bon jeu à tous.